to come servir, nous attendons le retour du Seigneur. Ça fait partie. Il ne faut pas que ce soit accessoire. C'est au cœur de notre expérience chrétienne et de notre relation avec le Seigneur. Il faut se mettre ça dans la tête. Et parce que sinon, on se lasse. Jésus a raconté une parabole. Il a parlé du maître de la maison qui est parti. Mais avant de partir, il a confié à ses serviteurs certaines tâches. Mais il y avait des serviteurs qui se disaient, « Ah, notre maître tarde. » Et ils ont commencé à... Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Vous connaissez cette parabole dans Luc? Ils ont commencé à taper sur les autres serviteurs. Ils ont commencé à maltraiter les autres serviteurs. Ils ont commencé à dominer et à maltraiter les autres serviteurs. Et parce qu'ils pensaient que le Seigneur ne tardait à revenir. Et Jésus mettait ses disciples en garde contre cette tendance de penser, même si ça traîne, même si on s'impatiente, c'est sûr et certain qu'il va revenir. Et il faut se comporter en toute connaissance de cause. Et donc, il faut garder ça dans la tête. Donc, ma façon... Je veux que vous m'aimiez, mais plus que votre réponse à moi, c'est il faut que je sois correct envers vous. Sinon, j'ai des comptes à rendre devant le Seigneur. Vous appartenez au Seigneur. Et il ne resterait pas les bras croisés si moi je commençais à vous maltraiter, enfin, si je commençais à vous manipuler. Ou à vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma façon d'attendre le Seigneur pèse sur ma façon de vous traiter, sur notre relation réciproque. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, nous allons avancer à notre chapitre, le chapitre 3. Et donc, je vous invite à trouver dans votre Bible 1 Thessaloniciens, chapitre 3. À propos des deux autres chapitres, donc il reste, si vous n'étiez pas là la semaine dernière, il reste quelques feuilles. Il y a deux choses qui passent. Hein? Ça, c'est la première semaine. Si vous n'avez pas eu pour la première semaine, vous en prenez. Et puis la semaine dernière, hein, chapitre 2. Alors, la chose, mon épouse m'a dit, la prochaine fois, il faut choisir du papier en couleur. Hein? Donc, rouge, vert, et comme ça, on ne va pas mélanger. La seule chose qui distingue peut-être, c'est en haut le chapitre. Hein? C'est là où j'ai marqué le chapitre. Parce que maintenant, je vais vous passer la troisième feuille. Hein? Il ne faut pas les mélanger. Non, je vous fais confiance. Mais pour le chapitre 3, alors, servez-vous-en. Et ça va nous aider à nous concentrer nos pensées. Il y a le premier chapitre 1 à 5, mais c'est surtout pour la première étude. Deuxième, c'est le chapitre 2. Eh bien, on va y trouver là. Excusez-moi de compliquer les choses. Hein. Et nous sommes au chapitre 3 maintenant. Et comment vous pouvez lire sur la feuille qu'il s'agit d'un contexte où les épreuves et les persécutions menaçaient d'ébranler la foi des croyants. L'apôtre Paul a fait appel aux ressources qui les aideront à tenir bon. Si pour vous la vie chrétienne est tout calme, où le soleil brille toujours, il n'y a jamais d'attaque, jamais de menace. C'est difficile à se mettre dans la peau de ces gens-là qui passaient par les épreuves assez rudes. Au départ, je disais qu'on ne souffre pas trop ici en France à force d'être identifié avec Christ. Mais j'ai changé depuis des années. Au départ, je pensais qu'il y avait de la tolérance en France. Je pensais que... Mais j'ai changé parce que je pense que la persécution est beaucoup plus nuancée en France. Peut-être ce n'est pas par les machettes ou par les attaques ou par... Ce n'est pas la menace de la mort qu'on doit rencontrer en France. Mais c'est subtil. Qu'est-ce qu'on risque de rencontrer en France? C'est le quand dira-t-on? Quand dira-t-on? Si je parlais comme un croyant, si j'agissais comme quelqu'un qui appartenait à Jésus-Christ, qu'est-ce que je risque? Le quand dira-t-on? On risque parfois les amis. Les amis vont nous, peut-être les personnes qui n'étaient pas si amis que ça. Mais les connaissances qui n'osent plus nous côtoyer, peut-être. Souvent, c'est nous, on a vu que les autres abandonnaient nos enfants. Nos enfants, les parents souffraient parce que les enfants ont été écartés parce qu'ils étaient les filles du pasteur, vous voyez. Il y avait quand même, une fois, tout au début de notre expérience en France, on a commencé un club d'enfants, et il y avait pas mal d'enfants qui venaient. C'était dans un quartier populaire, et les parents laissaient faire. Moi, je n'aurais jamais laissé mes enfants aller dans un club inconnu. Moi, je n'aurais pas fait ce que les parents faisaient, mais ils ont laissé venir leurs enfants. Mais à un moment donné, une mamie qui n'habitait pas loin de nous, une mamie d'une de ses filles qui fréquentait notre club d'enfants est venue avec des larmes. Et elle a expliqué que dans la semaine, le curé est allé de porte en porte. Il a fait le tour de tout le voisinage pour mettre tout le monde en garde contre les baptistes qui faisaient un club pour leurs enfants. Et elle a expliqué que la maman, donc si ça dépendait d'elle, de la mamie, elle laisserait venir sa petite fille. Mais la maman a fait savoir que sa fille ne pouvait plus venir dans notre club. Parce que le curé, monsieur le curé, disait que les baptistes sont une secte dangereuse. Une secte dangereuse. Ça, c'était dans les années 80. Alors maintenant, si vous interrogez les curés, les prêtres, ils vont vous dire, « Oh, les baptistes, ce sont les frères égarés. » C'est tout. Aujourd'hui, en 30 ans, on a évolué. Hein? Donc, pour eux, nous sommes des frères égarés. Donc, peut-être un jour ou l'autre, on verra la lumière hein, et on reviendra. Mais ça a changé, mais c'est la pression familiale aussi hein, en France. Il y a une pression familiale où on ne laisse pas faire. Et je me souviens aussi que un jour, une dame s'est mise devant moi en disant que ses enfants ne mettraient jamais le pied dans une église baptiste. Elle avait fait, jeune, elle avait fait une mauvaise expérience dans une église baptiste. Elle a gardé en tête les souvenirs, les mauvais souvenirs. Et maintenant, ses enfants... qui avait l'âge, mais elle a dit, aussi longtemps mes enfants ne mettraient jamais le pied chez vous. Mais j'ai dit, mais ça c'est dangereux de dire ça, aussi longtemps que je suis vivant, parce que Dieu a mis une façon de régler ce problème-là. Et elle n'a pas compris ce que je disais. Il ne faut pas vous mettre en embûche entre les personnes et Dieu. Hein? Mais la pression familiale, c'est-à-dire que « Oh, vous n'allez pas croire ça, je vous ai élevé d'une autre façon. » Une femme a accepté le Seigneur chez nous et elle a invité son mari non-croyant et ses deux jeunes filles avec elle. C'était un dimanche de Pâques finalement où elle s'est fait baptiser. Donc on a fait une réunion de baptême, deux personnes se sont fait baptiser. C'était en 96. Ça remonte, mais je veux dire que c'était la joie totale, c'était le témoignage clair et précis, il y avait beaucoup de monde dans l'Isie, et c'était la joie pour notre petite église en devenir. Et puis lundi de Pâques est venu, et il a reçu un coup de fil, Et ce qui s'est passé, c'est que son mari faisait partie d'un club de moto. Et Gilles et Sylvie avaient été montés sur la moto avec les deux filles dans un six-car. Donc, tous ensemble, ils avaient fait une balade en moto. Ils sont entrés sur l'autoroute et ils étaient cognés, écrasés par une camionnette. Et Sylvie a frappé la bitume avec une telle force que ça a fissuré sa casque, mais elle est morte sur le coup. Et Gilles, son mari, était vraiment esquinté aussi, brûlé par. Il a glissé sur la bitume. Il a été hospitalisé. Les deux enfants n'avaient rien, indemne pour l'accident, mais Sylvie est décédée. Et donc, je l'ai baptisé dimanche de Pâques et je l'ai enterré le dimanche après. Mais entre-temps, sa famille, très, très catholique, très pratiquante, avait demandé à M. le curé d'intervenir. Et donc, en semaine, ils ont fait une sorte de d'obsèque pour Sylvie, mais sachant qu'elle venait de se faire baptiser chez nous et que son mari n'était pas d'accord non plus, mais il était hospitalisé, il ne pouvait pas intervenir. Donc nous sommes allés assister, donc la mère de Sylvie avait fait savoir que personne chez les baptistes était le bienvenu pour les obsèques. Nous sommes allés quand même, et discrètement, hein, au fond. Mais on a entendu le curé parler du défunt. On n'a jamais prononcé son nom, mais c'était le défunt qui avait pris de mauvaises décisions tout à la fin de sa vie, de mauvaises décisions. Il parlait de son baptême, de sa conversion et de son baptême chez nous. Vous voyez la pression. Il n'y a pas de persécution. On ne risque pas d'être lapidé. On ne risque pas d'être décapité. Vous voyez ce que... Mais la pression familiale. Et les agissements des ennemis de l'Évangile dans les coulisses, dans les couloirs. Et donc, on ne peut pas dire qu'on ne subit pas de la persécution. Il y a parfois au travail, il suffit de savoir, à la fin qu'au travail, d'être en groupe. Hein? Un jour, vous allez vous mettre dans un groupe de semblables, hein? Avec vos... Et vous allez écouter une blague. Ah oui, ce sera une blague. Une blague comme on entend parfois, à la télé ou ailleurs. Et par conscience envers Dieu, parce que vous êtes chrétien, vous ne trouvez pas ça drôle et vous ne rigolez pas. Essayez. Essayez d'être le seul dans le groupe à ne pas rigoler à cette blague. Et vous pensez que vous resterez indemne? Mais ils vont noter ça, hein? Ils vont vous traiter de tous les noms si vous ne rigolez pas à leur blague. Sauf si vous avez construit un témoignage et ils le font pour vous provoquer ou quelque chose comme ça. Mais normalement, il y a la pression du monde pour vous conformer. Et si vous ne vous conformez pas, alors ce sera l'exclusion ou une sorte de persécution. Eh bien, nous arrivons dans le chapitre 3 où il y avait une violence, une persécution violente. Il suffit de lire dans Actes chapitre 17, vous allez lire. Il y avait des ennuis de justice, il y avait des personnes, les voyous, les vauriens qui ont été engagés pour attaquer les chrétiens. Donc, ils étaient payés pour ça, à Thessalonique. Et puis, il y avait des personnes haut placées dans la société qui attaquaient en justice et qui cherchaient à faire taire les chrétiens et l'apôtre Paul, qui cherchaient à impliquer les gendarmes, la justice, les magistrats, si bien que quelques chrétiens devaient déposer une sorte de caution, justement. Donc, ça coûtait financièrement. Ça coûtait la place dans la société, ça coûtait tous les maux imaginables, n'est-ce pas, et les attaques violentes de la part des gens qui se donnaient un vilain plaisir pour vous attaquer. C'était de la violence gratuite. Alors moi, je n'ai jamais subi ça. Une fois, quelqu'un a volé nos fleurs depuis notre balcon. Est-ce que ça compte? Non, ça ne compte pas. Non, mais je veux dire que vraiment, c'est difficile pour moi de me mettre à la place de ces gens-là, mais eux, sans doute, ils se demandaient, est-ce que ça vaut la peine? Tout ce trouble, tout a basculé dans l'horreur. Ils n'étaient plus en sécurité. N'importe qui pouvait les attaquer, du haut ou d'en bas de la société. Et ils étaient vulnérables. Et donc ils se demandaient sans doute, ils auraient pu se demander, est-ce que ça vaut la peine de continuer comme chrétien? Si c'est ce seul nom qui nous attire tous ces malheurs, alors est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et en plus, le fondateur de leur communauté, l'Église, n'était plus là. Il a dû s'échapper en cachette, en quelque sorte. Il a été escorté la nuit dans une autre ville, hein, pour ne pas être pris par les autorités. Et donc, c'est là où nous en sommes dans le chapitre 3. Et l'apôtre Paul va faire appel à beaucoup de ressources pour les calmer, pour les aider à surmonter les épreuves, à continuer à persévérer malgré les épreuves qui les atteignent. Mais surtout, il va terminer avec la plus belle ressource, c'est au chapitre 3, verset 13. Et je commence par la fin parce que le temps passe tellement vite que si on n'arrive pas à tout dire cet après-midi, au moins on aura lu le principal au verset 13. Ben, ça commence au verset 12 aussi. Hein. Donc, chapitre 3, 12 et 13. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire? Merci, Elisabeth. Merci. Je vois le doigt. Alors, 12 et 13.
Quel Seigneur en main le plus amoureux parmi vous? C'est ça?
Oui.
Et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints.
Voilà encore une référence à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. Mais c'est une ressource pour contrer les malfaits de la persécution. Il nous faut des soutiens, il nous faut des appuis, des accroches pour ne pas être balayé par nos sentiments, pour ne pas être écrasé hein, par le poids des circonstances adverses. Il nous faut quelque chose. Et donc, on va faire la liste, mais il termine avec le meilleur soutien. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Je sais que c'est dur. La vie est dure. Je sais que vous souffrez. Je ne suis pas insensible. Voilà. Je ne suis pas insensible. Je sais que vous pleurez. Je sais que vous n'arrivez plus à avoir la paix, que vous êtes celui qui vive. Je sais, mais le Seigneur revient. Mais le Seigneur revient. Il faut que ça joue dans notre façon de faire face aux épreuves. Hein, ça fait partie. Il y a d'autres ressources et on va les ajouter à notre certitude que le Seigneur va revenir. Et donc, on peut commencer au premier verset, les versets 1 à 3. Il y a un bon temps pour lire les versets 1 à 3.
C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'Évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit éloigné au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à ça.
Voilà. Donc, l'apôtre Paul va envoyer Timothée, son lieutenant, en quelque sorte, son stagiaire, en quelque sorte, c'est un jeune qui suivait l'apôtre Paul dans ses voyages, dans ses déplacements. Mais il était capable, il était qualifié pour faire les fonctions, pour prendre ce qu'il avait appris et entendu de l'apôtre Paul et pour mettre tout cela à la disposition des nouveaux croyants à Thessalonique. Dans un moment de faiblesse, dans un moment d'épreuve, Hein, c'est ça ce que je voulais dire. Dans un moment où ça va mal, nous pouvons être fortifiés et consolés par le ministère d'un serviteur de Dieu. Alors, en tant que pasteur, je me trouve embarrassé en quelque sorte parce que mais ce qu'un serviteur de Dieu va faire, c'est d'offrir la parole de Dieu et la pensée de Dieu dans telle ou telle situation. Il n'a pas de force en lui-même. Timothée n'était pas fort en lui-même, il était fort grâce à ce qu'il avait appris et fait dans la pratique. Et ce qu'il avait fait avec l'apôtre Paul, il allait transmettre aux chrétiens qui souffraient. Dans ma petite expérience de pasteur, quand même, la réaction première d'un chrétien devant l'épreuve est de se retirer. C'est ça ce que j'ai vu. Aux États-Unis, mais aussi, c'était de cet imam. C'est-à-dire que j'ai mal, je me retire. Et il faut apprendre d'autres réflexes quand on a mal. Et c'est vrai qu'on peut raisonner que mon problème est tellement compliqué ou personnel et privé qu'on peut-être on a du mal à partager avec quiconque, même le pasteur. Hein. Il faut avoir confiance dans la personne avec qui vous partagez les choses, ça c'est sûr. Hein. Il faut avoir confiance. Il ne faut pas répandre vos malheurs à n'importe qui dans l'Église. Parfois, nos malheurs sont des outils entre les mains des autres utilisés contre nous. Et donc, il faut avoir confiance. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a droit à une vie privée, même si on est une grande famille en Christ. Et donc, il faut être discret. Mais à un moment donné, quand on a mal, ce n'est pas le moment de se retirer. Ce n'est pas le moment de se retirer de la famille, de l'Église, de... Mais c'est ce qui arrive, parce qu'on souffre tellement, on a du mal à se concentrer sur autre chose. Et donc, parfois on est là présent au culte, on est là présent dans une étude biblique, et on sait que ce n'est pas la peine que j'y aille, parce que je serai là physiquement présent, mais j'aurai la tête ailleurs. Mais non, même si vous aurez la tête ailleurs, et c'est normal, dans un moment de grande épreuve, vous venez quand même. Ne vous cachez pas. Ne partez pas. Hein. Il faut vous confier, même si c'est au Seigneur, mais en groupe. On a le droit de dire dans une réunion de prière, j'ai un sujet, mais je n'ai pas le droit de le dire à haute voix. C'est une requête silencieuse. Mais c'est important, et le Seigneur est au courant. Et dans l'esprit de chacun, vous priez au Seigneur que sa volonté soit faite dans cette situation. Et on peut faire comme ça, sans mettre tout sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? C'est permis d'avoir des choses privées. Mais il ne faut pas se cacher, il ne faut pas s'en aller, il ne faut pas laisser cette chose vous contrôler. C'est-à-dire, nous sommes appelés à être remplis de l'esprit, contrôlés par l'esprit, non pas par l'épreuve. Si je vois que c'est l'épreuve qui immobilise un croyant, coupe le croyant de toute sa joie, de toutes ses interventions au sein d'une assemblée. J'ai dit, il est contrôlé par l'épreuve, il n'est plus contrôlé par le Saint-Esprit. Et donc, il faut choisir le maître. Hein. Ici, dans un moment de faiblesse, Timothée a été envoyé par l'apôtre Paul vers les Thessaloniciens, c'était assez important pour un déplacement. Donc, profitez de votre pasteur, profitez de quelqu'un, homme ou femme, en qui vous avez confiance au sein de votre assemblée. C'est quelqu'un qui sait garder un secret si c'est secret. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne va pas répondre vos problèmes partout. C'est quelqu'un avec une certaine expérience. Et peut-être vous allez découvrir que d'autres personnes sont passées par les mêmes épreuves et qui ont réussi quand même. Quelqu'un qui peut vous donner un peu d'encouragement et un peu d'espoir qu'un jour, l'épreuve prendra fin. Certaines épreuves ne prendront jamais fin. Il faut savoir. Hein? Je me souviens que mon grand-père, c'était mon grand-père, l'arrière-grand-père d'Émilie, il se demandait toujours quand le mal qui a frappé Émilie serait parti. Mais nous savons qu'il y a certaines épreuves qui sont pour la vie et donc il faut faire face. Il ne faut pas attendre que l'épreuve s'en aille avant de se mettre au service de Dieu, au service de l'Église, au service de... Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, je ne serai pas là devant vous aujourd'hui. Mais il faut apprendre que la grâce de Dieu est plus forte. Avec l'arrivée de Timothée, quel était dans l'esprit de l'apôtre Paul au verset 3, afin que personne ne soit de fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Donc, d'être ébranlé, écrasé, de perdre pied, d'être arrêté, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez d'autres synonymes. Mais on ne minimise pas, la Bible ne minimise pas les tribulations, les troubles, les épreuves. Il y a dans certaines églises qu'on dit, ben, Jésus est mort pour tout ça, et donc on peut avoir le cœur léger, et la joie tout le temps, et c'est la fête en permanence. Mais il me semble que Jésus a pleuré à un moment donné. Il a pleuré. Vous savez où il a pleuré? La mort de Lazare. Est-ce qu'on a le droit de pleurer devant le tombeau d'un ami, même si on sait qu'on va revoir cet ami par la suite? Jésus a pleuré, mais dans certaines églises, on n'a pas le droit de pleurer. Hein? On n'a pas le droit d'être triste. On est obligé d'être heureux, la joie, la joie, la joie. Et la joie est là aussi, hein? Et on a la possibilité de pleurer. Il a pleuré une autre fois, Jésus. Le jardin de Gethsémané, oui. Est-ce qu'on a le droit de pleurer devant le péché? Parce que non pas son péché à lui, mais nos péchés à nous, qu'il allait porter sur la croix. Il a pleuré. Si cette coupe, Père, cette coupe, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne, soit faite. Il a pleuré. Troisième fois, il a pleuré. Il était sur la montagne, qui surmontait un dé, qui donnait sur Jérusalem. Ah, Jérusalem, Jérusalem, si seulement tu savais qui j'étais au moment de ta visite. Il a pleuré pour les non-croyants de Jérusalem. Il a pleuré de leur. Il a versé des larmes à cause de leur refus de Jésus-Christ. Et je crois qu'on a le droit d'être... Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? Lui qui a dit, soyez toujours joyeux. Il a dit, frère, j'ai une angoisse, un chagrin continuel. Ma prière devant Dieu est qu'Israël soit sauvé. Parce que je porte une... C'est l'angoisse et le chagrin continuel. Donc on peut voir les deux en même temps. Mais il faut savoir que... Il y a des épreuves, il y a des sentiments qui risquent de nous submerger. Et je me souviens, ma grand-mère était la première personne sauvée dans ma famille, et j'étais la deuxième personne. Et je me souviens, plusieurs fois on se rencontrait chez elle, et on pleurait pour les autres membres de notre famille. Hein. C'était sa fille, ma mère, et puis mon père, mes deux frères, et d'autres personnes, les oncles. Et à force de commencer à prier par nom, on a fini tous les deux par pleurer. Mais ça faisait du bien de partager les fardeaux les uns des autres, mais de reconnaître qu'on ne minimise pas les fardeaux et les épreuves par lesquelles on passe. Tu as le verset?
Non.
C'est Romains chapitre 10, premier verset, je crois. Continuez. D'accord. On va chercher le verset après. Mais voilà, donc on ne minimise pas la situation difficile et il ne faut pas que quelqu'un s'en moque, il ne faut pas que quelqu'un réglisse ça, balaye ça par un revers de main. Il faut prendre au sérieux parce que ça risque de vous ébranler. Et donc, il faut peut-être, le pasteur peut venir en aide, peut-être quelqu'un d'autre dans l'assemblée. Donc, servez-vous des pasteurs, des personnes que Dieu a mis sur votre chemin pour vous aider à gérer ce qui vous arrive dans votre vie, si vous pouvez faire confiance. Alors, on va continuer, mais il y a des pasteurs et d'autres personnes qualifiées et équipées par Dieu pour fortifier et consoler les chrétiens. Est-ce que quelqu'un veut bien lire la deuxième partie du verset 4? Bah, il faut commencer deuxième partie du verset 3. Voilà, merci.
C'est que vous vous absteniez de la débauche.
Ah non. Non. Chapitre 3, ouais, afin que personne ne fût ébranlé. Au verset 3.
Oui. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, c'est ça?
Oui.
Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serons exposés à des afflictions, comme cela est arrivé et comme vous le savez.
Oui. Donc, personne ne peut dire que je n'étais pas prévenu. Ah, si j'avais su. Est-ce que c'est comme ça qu'on évangélise les personnes? À un moment, on dit, c'est pour la vie éternelle, c'est pour le pardon des péchés, c'est pour être un membre de la famille de Dieu, c'est pour avoir une place auprès de Dieu dans l'au-delà, c'est pour être le temple du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on peut dire, c'est pour souffrir? Oui, vous allez souffrir. Et puis, vous allez avoir mal. Et puis, les gens vont se détourner de vous. Et puis, vous serez perdant. Et vous ne voulez pas être chrétien? Oui, il y aura beaucoup d'épreuves et des tribulations. Et vous allez souffrir beaucoup. On ne parle pas comme ça, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul l'a fait. Regardez, encore le verset 3. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. Je me demande si on dit toute la vérité quand on essaie d'évangéliser ou quand on s'occupe des chrétiens nouveaux. Il faut leur prévenir, il faut les équiper pour qu'ils puissent faire face. Et dans un moment de faiblesse, nous avons recours à la souveraineté de Dieu, qui maîtrise la situation. Si les gens pensent que, c'est parce que je suis associé avec Jésus-Christ, c'est le prix à payer, la souffrance, et je deviens cible. Le diable va m'attaquer parce que je suis associé avec Jésus-Christ, comme Job, comme les autres. Donc, mais si on sait qu'on n'est pas à la merci de l'adversaire, et on n'est pas vraiment à la merci des hommes méchants, comme ils étaient à Thessalonique, mais nous sommes sous la souveraineté de Dieu. C'est ça le verset 4 et verset 3. Nous sommes destinés à cela. Qui nous a destinés à cela? Mais Dieu. C'est lui qui contrôle la situation. Et dans une épreuve, c'est la première chose qu'on pense, qu'on a perdu le contrôle. On ne contrôle plus rien. Que c'est le monde à l'envers. N'est-ce pas? C'est notre monde se déconstruit dans une épreuve. On perd pied selon que l'épreuve est plus ou moins grande. Mais ici, il ne faut pas passer par ces étapes-là parce que Dieu nous a destinés à cela et nous serons exposés à des troubles. Tribulation, c'est troubles. Pas uniquement les persécutions, mais des troubles, des épreuves de toutes sortes, de toutes sortes. Alors peut-être votre épreuve ne ressemble pas à la mienne. Et même si c'était la même épreuve, nous n'avons pas les mêmes muscles spirituels, vous et moi. Peut-être, moi j'ai trouvé que les chrétiens autour de moi sont beaucoup plus équipés, beaucoup plus musclés spirituellement pour supporter que moi, parce que moi j'ai vécu une vie assez... à l'abri du trouble. Et quand on est à l'abri, on ne se fait pas des muscles spirituels. Mais quand on doit tous les jours faire face à quelque chose qui vient sans cesse, ou qui tape sans cesse, donc on finit par avoir des muscles spirituels. Et bien, la prochaine fois que vous êtes pris par surprise dans une situation que vous n'avez pas cherché, que vous n'avez pas provoquer, Mais Dieu a permis. Alors vous n'allez pas claquer la porte et vous n'allez pas vous en aller, si la vie chrétienne est comme ça. Vous allez dire, Dieu, tu savais déjà. Tu étais au courant déjà. Tu avais déjà tout planifié. Et c'est toi qui vas m'accompagner dans cette épreuve. C'est toi qui vas me faire réussir cette épreuve. Tu vas me muscler pendant cette épreuve spirituelle. Et tu vas m'équiper pour être une aide, pour apporter un soutien à d'autres personnes derrière moi qui risquent de passer par la même épreuve. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Qu'il a été réconforté, consolé par le Père des miséricordes pour qu'il soit en mesure de réconforter et de consoler d'autres chrétiens qui passent par la même épreuve. Et donc, c'est un peu enfantile, on dit, enfantin, de dire, Seigneur, je ne veux pas souffrir. J'ai dit ça. Seigneur, je ne veux pas avoir mal. Cette année, c'était quelque chose. Moi, je pensais que c'était les jeunes qui souffraient. C'est les moins jeunes. Hein? Ça a commencé avec mes gens de sagesse qui devaient partir, tous les quatre. Imaginez, à 60 ans passés, il faut aller au dentiste pour se faire retirer les dents de sagesse. Et puis après, c'était les yeux. Puis encore. Et c'est moi qui alimente la sécurité sociale tout seul. Hein. Donc, c'est, maintenant, c'est les yeux, les cataractes. Hein, donc, avec les deux yeux. Et après, c'était autre chose hein, pour les hommes d'un certain âge. Et je ne vais pas vous faire tous les détails. Mais ça aussi, c'était une intervention par laser, séjour à l'hôpital, et puis, un petit cancer de la peau, hein, qu'en avril, le 7 avril. Donc, ça, ce n'est pas il y a longtemps, mais 9 points de suture, et ils ont. Ils m'ont laissé quelques cerveaux. Hein, ils n'ont pas tout pris. Donc, voilà. Mais, j'ai dit, à un moment donné, quand on est à l'hôpital et on n'est pas là où on veut être, on dit, Seigneur, je ne veux pas souffrir. Et ça revient. On est destiné à cela. Ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Et ça fait partie de la souveraineté de Dieu de nous conduire jusque dans la souffrance, mais de nous accompagner à travers la souffrance et de nous faire sortir aussi par l'autre côté. Et c'était un appui, c'était un point d'accroche hein, pour qu'il ne soit pas ébranlé. Le verset 5, est-ce que quelqu'un veut lire le verset 5? Merci Boris.
Ainsi, dans mon passion, j'envoyais le former de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous puissions travailler en
vous. Dans un moment de faiblesse, nous prenons acte du combat spirituel. Hein, le tentateur est là, les agissements de notre adversaire, mais aussi on prend acte des enjeux de notre choix. Parce que si ces gens-là avaient succombé à leurs épreuves, l'apôtre Paul dit, nous aurions travaillé en vain. Vous voyez l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas juste vous. On est très égoïste dans l'épreuve. On ne pense qu'à soi. J'ai mal. Et parfois on se plaît dans son mal aussi. Parce que, comme j'ai dit, je crois que j'ai déjà dit que les gens sont beaucoup plus gentils avec vous quand vous avez mal. Une fois, je me suis cassé deux os du pied. Oh, les gens à Reims étaient beaucoup plus gentils avec moi quand j'étais plâtré. Dès que j'ai perdu le plâtre, ils sont revenus normalement. Hein, donc, ils étaient plus gentils avec moi. Mais donc, il y a des gens qui découvrent le secret de recueillir la compassion, la pitié et tout ça. Mais l'apôtre Paul, pourquoi je parle de ça? Mais, oui, les enjeux, c'est-à-dire que tous les travaux de l'apôtre Paul pour leur faveur auraient été en vain, que l'Église cesserait d'exister, que les non-croyants qui voyaient, qui observaient comment les chrétiens agissaient en face de la persécution, que donc un témoignage perdu, en quelque sorte, et l'œuvre de Dieu a été Thessalonique écrasée. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de choses qui dépendent de votre réaction devant l'épreuve. Il faut dire que ce n'est pas juste vous qui est impliqué. Ce n'est pas uniquement vous. C'est tout. Toute l'œuvre de Dieu. C'est presque comme si, devant l'épreuve, tout l'univers retient son souffle. Boris a mal en ce moment. Il a mal. On retient le souffle. Comment est-ce qu'il va réagir devant ce moment? Il ne me regarde pas les yeux dans les yeux. Comment est-ce qu'il va? Tout le monde. Mais Boris, c'est l'univers tout entier. C'est Dieu. C'est Jésus. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Église. C'est la communauté. Et tu as mal. On sait que tu as mal. On prie pour toi. Mais tu vas réagir de la bonne façon. Tu ne vas pas tout laisser tomber. Tu ne vas pas maudire Dieu. Un peu comme l'épouse de Job. Hein? Tu ne vas pas t'en aller chercher la facilité ailleurs, n'est-ce pas? Tu vas tenir bon. C'est parce que beaucoup de choses dépendent de ta réaction. Et c'est ça ce que l'apôtre Paul voulait montrer. Donc, parfois, il faut penser à au-delà de sa souffrance personnelle pour comprendre les enjeux de tel ou tel choix, les conséquences de tel ou tel choix qu'on fait. Regardons les versets 6 à 9. Une femme va lire, je ne sais pas, Angélique, si tu veux bien.
Mais Timothée vient de nous arriver de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour.
Ah, on respire. merci Boris, tu as fait le bon choix. Non, pardon, je t'ai coupé.
Il nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir et que vous désirez nous revoir autant que nous le désirons aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. En effet, maintenant nous vivons, puisque vous tenez ferme dans le Seigneur. Comment exprimer en retour toute notre reconnaissance à Dieu à votre sujet pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous devant notre Dieu?
Merci. Oui. Il y a quelque chose de réciproque, quelque chose de mutuel dans ces versets-là. La foi, la persévérance des chrétiens à Thessalonique avait un impact sur l'apôtre Paul et sur sa partie. Hein, les gens qui étaient avec lui, ils ont dit son parti. Pardon? Son entourage, voilà. Et maintenant nous vivons! Nous vivons, on sait que ça vaut la peine, on sait que ça vaut la peine de continuer, ce n'est pas peine perdue quand nous sommes passés chez vous. Dans un moment de faiblesse aussi, nous nous appuyons sur la foi des autres. C'est-à-dire que moi, en souffrance, je peux penser que ma façon de réagir peut avoir un impact sur la foi de quelqu'un d'autre. Je peux encourager ou décourager quelqu'un par ma réaction à mon problème. Vous voyez? J'ai ce pouvoir entre mes mains. C'est moi qui souffre. Et je suis tenté de penser, tout le monde doit me prendre en pitié. Mais non, il faut que moi je prenne l'initiative. Ma façon de réagir à cette souffrance va toucher beaucoup de monde. Il faut que je prenne conscience de ça. Ma façon de réagir à cette souffrance va toucher beaucoup de monde. Je serai un bon exemple pour les autres. Ou je ne serai pas d'exemple du tout. Hein? J'aurai un impact ou un impact négatif sur les autres. Et donc, c'est important de penser à ces choses quand on souffre, quand on passe par une épreuve quelconque. Ce n'est pas juste une affaire privée ou une affaire de famille. Ça touche beaucoup de personnes autour de vous. Les versets 10 à 12, à notre volontaire. Siri, merci.
Tous les jours, nous lui adressons de très instants supplications afin de voir votre visage et de supplier ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre chemin jusqu'à vous. Que le Seigneur fasse abonder et déborder votre amour les uns pour les autres et envers tous les hommes à l'exemple de celui que nous avons connu.
Oui, vous avez vu toutes les références à la prière. C'est-à-dire, parfois on prend ça pour acquis, la prière, mais c'est vraiment... C'est parce qu'en tant que pasteur, j'ai entendu des personnes dire « Je suis trop fatigué pour prier. J'ai trop mal pour prier. Je suis trop déconcentré pour prier. » Jésus, ils avaient toutes les excuses et les prétextes du monde pour ne pas prier. Et pourtant, c'est un de nos soutiens dans l'épreuve. C'est un peu quelqu'un qui dit « Ah, je suis trop malade pour aller consulter un médecin. » Vous voyez? J'ai trop faim pour aller manger. J'ai trop soif pour aller boire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas de sens. J'ai trop mal pour aller prier. Donc, voilà, nous allons passer à la prière. Et parfois, la prière est silencieuse parce qu'on n'a pas les mots, le cœur est dans la douleur tellement que c'est la prière silencieuse. Mais on va passer à la prière. On ne va pas se couper de Dieu. Et regardez toutes les fois, nuit et jour, nous le prions. Et il y a même une prière au verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur, et que le Seigneur augmente au verset 12. C'est-à-dire qu'en principe, au lieu de faire taire notre cœur, il faut donner à notre cœur la possibilité de s'exprimer dans la prière. Dieu, j'ai mal. Dieu, je veux réussir cette épreuve. Dieu, je ne sais pas comment faire face. Dieu, je risque de faire une bêtise dans cette épreuve. Aide-moi. Donne-moi quelqu'un à qui je peux me confier. On peut multiplier les prières comme ça à l'infini, mais c'est le moment de passer à la prière quand on souffre. C'est le moment de passer à la prière. Et on sera jamais trop, on n'aura jamais trop mal pour prier. Et il y a, puis on a déjà fait le verset 13, le Seigneur va venir, il faut songer que, il faut relativiser, hein, c'est une sorte, une façon de relativiser l'épreuve qui occupe toute notre vision, qui est assourdissant, en quelque sorte, on n'entend rien d'autre que la douleur de cette épreuve. Mais quelque part, il faut laisser glisser cette promesse, le Seigneur revient, le Seigneur revient, le Seigneur revient. Tenez bon, jusqu'à ce qu'il revienne. Ça vaudra la peine. Hein. Vous avez des questions sur la place de ces soutiens, des places de ces renforts, qui nous renforcent dans un moment de faiblesse dans la vie chrétienne. Peut-être vous connaissez d'autres appuis. Peut-être un après-midi à la plage, ça vous fait du bien au moment de... Oui, parfois il faut se promener, hein, prier. Parfois, je connais des personnes qui sortent le cantique, le recueil de chants, pour chanter. Et parfois, ça remplace les pensées noires, les pensées sombres qui parfois débordent dans une épreuve. Et on sort les cantiques parce que Dieu a permis au compositeur de mettre dans la musique les vérités du livre et qu'on profite de leur don spirituel. Parfois, c'est juste passer du temps avec d'autres croyants pour avoir une autre opinion, un autre regard sur le problème. Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Il est 15h et on va terminer. Mais vous avez quelque chose à dire?
Quelquefois, on se retire, et en arrière, on est dans le silence.
Le recueillement. Oui. Oui. Parce que, à un moment donné, on n'arrive plus à jongler tout ce que le Seigneur nous lance en tant que. Donc, on se recueille. Et puis, mais ce n'est pas la même chose que de disparaître. Hein, ça, on a le droit de se recueillir, mais on ne claque pas la porte.
Est-ce que jeûner aussi, chercher ce que Dieu vise à travers cela?
Oui, le jeûne, c'est simplement d'éliminer une source de distraction. Préparer à manger, mettre à la table, se mettre tous ensemble pour manger, ça prend du temps et ça distrait. Mais le simple fait de se priver de la nourriture, moi je ne pense pas que ça apporte quoi que ce soit à la prière. c'est plutôt éliminer des distractions. Éliminer des distractions pour se concentrer sur la crise. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne faut pas penser que le jeûne est un porte-bonheur qu'on peut sortir et qui change une situation. Le Seigneur a jeûné, Jean-Baptiste a jeûné, il a enseigné ses disciples à jeûner. Les gens ont critiqué les disciples de Jésus parce qu'ils ne jeûnaient pas, au moins pas autant que les disciples de Jean-Baptiste. Jésus a dit, mais comment est-ce que les amis du marié puissent jeûner quand le marié est toujours avec eux? Le temps viendra quand le mari sera enlevé et puis ils vont jeûner. C'est-à-dire qu'il y a un moment pour jeûner et ce n'est pas la routine. Hein? Il y a un contexte et un pourquoi on jeûne. Normalement, c'est pour éliminer des distractions inutiles, pour pouvoir se concentrer. Il y a quelqu'un d'autre? D'accord.
Mais c'est là. Aussi la recherche, la compréhension des choses. C'est ce qui a été la situation de Job. Quand Job était dans le chapitre 29, 30, 31 surtout, il cherchait la face de Dieu. Lorsqu'il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux, je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge, quelle part Dieu m'aurait-il réservé, quel héritage beaucoup plus grand m'a envoyé des cieux, la ruine était propre pour le méchant, etc. Et là, il y a une recherche maladroite, certainement de la part de Job, mais il y a une recherche à laquelle Dieu répond finalement. Donc il y a aussi cette façon de. On peut s'adresser à Dieu en cherchant, en disant au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que tu veux de moi, qu'est-ce que tu veux.
Oui.
Alors, éventuellement, la recherche est maladroite, parce que l'on pourrait discuter sur l'article 31 par rapport à Job, par rapport à ce que dit Job. Mais cette recherche maladroite trouve une réponse, d'une part, dans le premier discours d'Élie, et puis ensuite en Dieu lui-même.
Et
donc
que,
là, il y a quelque chose.
Est-ce que Job a jamais compris pourquoi il souffrait? Est-ce qu'il a jamais entendu parler de cette discussion entre Dieu et le diable, tout dans le chapitre 1 et 2? Il n'était pas au courant que c'était Dieu lui-même qui a attiré le regard sur Job, attiré le regard du diable. C'est Dieu qui dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? C'est Dieu. Alors moi, je demande à Dieu, ne me pointez pas du droit. Non, mais Job n'a jamais compris. Nous sommes les privilégiés pour savoir, mais pour Job, la souffrance n'avait pas de sens. Et c'est pourquoi il râlait, parce que c'était injuste. Et pour lui, il souffrait injustement, il n'a pas mérité ça.
Pendant tout le passage. Mais à la fin.
Et à la fin, il n'a jamais su.
Il dit quand même, mon œil maintenant te voit. Donc, d'une certaine façon, il comprend que il y a eu une certaine manque de. Pas de soumission, mais.
De confiance.
De confiance, et cette manque de confiance, Dieu répond là à confiance, mais que lui a manifesté un manque de confiance.
Est-ce que Dieu lui doit une explication?
Non.
Non. Et parfois, on ne comprendra jamais pourquoi tel ou tel événement nous arrive, tel ou tel épreuve nous arrive. Parfois, on peut en parler autour, et peut-être quelqu'un d'autre avec une sensibilité spirituelle plus grande pour dire, est-ce que tu as pensé à ceci ou est-ce que tu as pensé à cela? Parfois, nous sommes source nous-mêmes de nos propres malheurs. Alors, si on peut mettre le doigt sur, et tu sais, tu n'as pas beaucoup d'amis parce que chaque fois que les amis te font confiance, tu les laisses tomber. C'est-à-dire que parfois, il y a cause et effet pour les malheurs. Mais ce que Paul dit pour les Thessaloniciens, c'est simplement que il existe Dieu, il existe l'ennemi de Dieu, et quand on s'associe avec Dieu, on devient l'ennemi de l'ennemi de Dieu. C'est aussi simple que ça, tu n'as rien fait. Vous n'avez rien fait, sauf de croire en Jésus-Christ. Ils n'ont rien fait, sauf de croire en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les épreuves étaient si, leur réaction aux épreuves était si dangereuse, parce que si le simple fait d'être identifié avec Jésus-Christ m'attire tout ce malheur, à quoi bon continuer? Pourquoi continuer? Et il a répondu, mais oui, il faut continuer, c'est l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui vous a destiné à cela, ce n'est pas un accident, ce n'est pas juste les... Et ainsi de suite, hein, je ne vais pas refaire l'étude. Mais c'est-à-dire qu'il y a des épreuves qu'on peut dire qui existent simplement parce que nous vivons dans un monde rempli de maudit par Dieu, rempli de pécheurs qui s'expriment dans leur nature pécheresse. Et parfois nous sommes victimes, parfois nous sommes ciblés, parfois nous sommes... Il existe des injustices parce que le monde n'est pas parfait. Et parfois on peut expliquer cela, mais pourquoi il y a inondation et tel ou tel se noie, pourquoi est-ce qu'il y a tornade et telle ou telle maison, pourquoi le feu au Canada, cette maison a été prise par les flammes, pas cette maison. C'est-à-dire que on ne sait pas. Et souvent, Dieu ne s'explique pas. Il ne s'explique pas. Et nous, hommes de raison, n'est-ce pas? Nous sommes, la plupart d'entre nous, sont raisonnables. Mais on dit pourquoi? Et qu'est-ce que Dieu dit? Fais-moi confiance. Seigneur, j'ai mal. Fais-moi confiance. Ma grâce te suffit. Qu'est-ce que Paul a dit? Enlève ça de moi, j'ai mal, je serai un meilleur serviteur de Corinthiens. Seigneur, j'ai mal. Ma grâce te suffit. Et l'apôtre Paul pouvait imaginer un meilleur scénario, une meilleure vie, un meilleur ministère. Oh, si vous pensez que je suis un bon pasteur maintenant, si simplement je n'avais pas myope, ou si j'avais des cheveux, ou si j'étais plus grand et sportif, imaginez tous les sportifs. Bon, maintenant tu vois dans les pensées. Mais le Seigneur dit, ma grâce te suffit, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la faiblesse hein, pour laquelle on passe. Il ne faut pas laisser ces choses-là soit des prétextes pour laisser tomber Dieu, pour accuser Dieu à tort, ou simplement pour... mal agir, hein? Parce que parfois quand on a mal, on fait mal aux autres. Bon, tout ça c'est... Merci pour les commentaires. Et on va terminer par la prière. Seigneur, encore, nous sommes contents que le Seigneur Jésus va revenir et nous nous accrochons à cette promesse, sachant que toute épreuve ou toute tribulation par laquelle on passe aujourd'hui prendra fin. Et nous sommes contents, Seigneur, d'avoir cette, pas une béquille, mais vraiment un appui pour notre foi. Parce que toi, le premier, tu sais, tu as souffert, Seigneur, dans ce monde, et tu nous as laissé un exemple. Comment réagir, de ne pas nous venger, de ne pas non plus nous laisser submerger par ces choses-là, mais d'aller de l'avant. Nous te demandons ton aide pour bien agir, pour bien gérer, pour prendre conscience des ressources que tu mets à notre disposition au moment de l'épreuve, sachant que tu ne nous as pas laissés démunis, au contraire. Tu nous as tout donné pour réussir. Exactement comme les Thessaloniciens ont réussi leurs épreuves. Et nous voulons faire pareil, Seigneur, dans les nôtres. Donc, merci. Je prie et je te confie, Seigneur, chacun autour de cette table, et peut-être quelques-uns passent par un moment difficile. Et nous ne sommes pas au courant, mais ce malheur prend beaucoup de place dans leur vie. Et j'aimerais te les confier, Seigneur, afin que tu viennes en aide, afin que...